La veuve d'un grand homme. Quand on apprit qu'elle se remariait, cela n'étonna personne. Malgré tout son génie, peut-être même à cause de son génie, le grand homme lui avait fait 15 ans d'une vie très dure, traversée de caprices, de fantaisies éclatantes dont Paris s'était quelquefois occupé. Sur la grande route de gloire qu'il avait parcourue triomphalement, et à toute vitesse, comme ceux qui doivent mourir jeunes, elle l'avait suivie humble et craintive, assise dans un coin du char, s'attendant toujours à des chocs. Quand elle se plaignait, parents et amis, tout le monde était contre elle. « Mais respectez ses faiblesses, lui disait-on, ce sont les faiblesses d'un dieu. Ne le troublez pas, ne le dérangez pas. Songez que votre mari n'est pas à vous seulement. » Il appartient bien plus au pays, à l'art, qu'à la famille. Et qui sait si chacune de ces fautes que vous lui reprochez ne nous a pas valu des œuvres sublimes. À la fin, pourtant, lassée de tant de patience, elle eut des révoltes, des indignations, des injustices, si bien qu'au moment où le grand homme mourut, ils étaient prêts à plaider en séparation et à traîner leur beau nom célèbre à la 3e page des journaux à scandale. Après les agitations de cette union malheureuse, les inquiétudes de la dernière maladie et le coup subit de la mort qui avait réveillé pour un moment l'affection primitive, les premiers mois de son veuvage firent à la jeune femme l'effet salutaire, reposant d'une saison de bain. La retraite forcée, le charme tranquille de la douleur apaisée lui donnèrent à 35 ans une seconde jeunesse presque aussi séduisante que la première. D'ailleurs, le noir lui allait bien. Puis elle avait la contenance responsable, un peu fière, d'une femme restée seule dans la vie, avec tout l'honneur d'un grand nom à porter. Très soigneuse de la gloire du défunt, cette gloire maudite qui lui avait coûté tant de larmes et qui maintenant grandissait de jour en jour, comme une fleur splendide nourrie par la terre noire du tombeau, on la voyait, entourée de ses longs voiles sombres, apparaître chez les directeurs de théâtre, chez les éditeurs, s'occupant de faire reprendre les opéras de son mari, surveillant l'impression des œuvres posthumes, des manuscrits inachevés, apportant à tous ces détails une espèce de soin solennel et comme un respect de sanctuaire. C'est à ce moment que son second mari la rencontra. Il était musicien, lui aussi à peu près inconnu, auteur de valses, de mélodies et de 2 petits opéras dont les partitions délicieusement imprimées ne s'étaient guère plus jouées que vendues. Avec une figure aimable, une belle fortune qu'il tenait d'une famille excessivement bourgeoise, il avait par-dessus tout le respect suprême du génie, la curiosité des hommes célèbres et la naïveté enthousiaste des artistes encore jeunes. Aussi, quand on lui montra la femme du maître, il en eut un éblouissement. C'était comme l'image même de la muse glorieuse qui lui apparaissait. Tout de suite, il fut amoureux, et la veuve, commençant déjà à revoir un peu le monde, il se fit présenter chez elle. Là, sa passion s'accrut de l'atmosphère du génie qui flottait encore dans tous les coins du salon. C'était le buste du maître, le piano où il composait, ses partitions étalées sur tous les meubles, mélodieuses même à regarder, comme si de leurs feuilles entr'ouvertes les phrases écrites résonnaient musicalement. Le charme très réel de la veuve, fixé dans ce souvenir austère, comme dans un cadre qui lui allait bien, acheva de le rendre éperdu d'amour. Après avoir hésité longtemps, le brave garçon finit par se déclarer, mais dans des termes si humbles, si timides. Il savait combien il était peu de choses pour elle, il comprenait tout le regret qu'elle pourrait avoir à échanger son nom illustre contre le sien inconnu et chétif, et mille autres naïvetés de ce genre. Pensez qu'au fond du cœur, la dame était très flattée de sa conquête, mais elle joua la comédie du cœur brisé, et prit les airs dédaigneux, blasés de la femme dont la vie est finie, sans espoir de recommencement. Elle, qui n'avait jamais été si tranquille que depuis la mort de son grand homme, trouva encore des larmes pour le regretter, une ardeur enthousiaste à parler de lui. Cela, bien entendu, ne fit qu'exalter son jeune adorateur, le rendre plus éloquent, plus persuasif. Bref, ce veuvage sévère se termina par un mariage. Mais la veuve n'abdiqua pas, et resta, quoique mariée, plus veuve de grand homme que jamais, comprenant bien qu'aux yeux du second mari, c'était là son vrai prestige. Et comme elle se sentait moins jeune que lui, pour l'empêcher de s'en apercevoir, elle l'accabla de son dédain, d'une espèce de pitié vague, d'un regret de mésalliance inexprimé et blessant. Mais lui ne s'en blessait pas, au contraire. Il était si convaincu de son infériorité et trouvait si naturel que le souvenir d'un pareil homme se fût installé despotiquement dans un cœur. Et pour l'entretenir dans cette humilité d'attitude, elle relisait quelquefois avec lui les lettres que le maître lui écrivait quand il lui faisait la cour. Ce retour au passé la rajeunissait de 15 ans, lui donnait l'assurance de la femme belle, aimée, regardée à travers tous les dithyrambes amoureux, l'exagération charmante de la passion écrite. Si elle avait changé depuis, son jeune mari s'en inquiétait peu, l'adorait sur la foi d'un autre, en tirait je ne sais quelle vanité singulière. Il lui semblait que ses supplications passionnées s'ajoutaient aux siennes et qu'il héritait de tout un passé d'amour. Étrange couple! C'est dans le monde qu'ils étaient curieux à voir. Je les apercevais quelquefois au théâtre. Personne n'aurait reconnu la jeune femme craintive, un peu timide, qui accompagnait jadis le maestro, perdu dans l'ombre, gigantesque qu'il faisait autour de lui. Maintenant, droite au bord de la loge, elle se montrait, attirait tous les regards à l'orgueil du sien. On lui dit qu'elle avait sur la tête l'auréole de son premier mari, dont le nom résonnait autour d'elle comme un hommage ou un reproche. L'autre, assis un peu en arrière, avec la physionomie empressée et sacrifiée de la vie, observait tous ses mouvements, attentif à la servir. Dans leur intérieur, d'ailleurs, cette bizarrerie d'allure était encore plus remarquée. Je me souviens d'une soirée qu'ils donnèrent un an après leur mariage. Le mari circulait dans la foule de ses invités, fier et un peu embarrassé de réunir chez lui tant de monde. La femme, dédaigneuse, mélancolique, supérieure, était ce soir-là veuve de grand homme, comme il n'est pas possible de l'être plus. Elle avait une certaine façon de regarder son mari par-dessus l'épaule, de l'appeler « mon pauvre ami » en l'accablant des corvées de réception d'un air de dire « vous n'êtes bon qu'à ça ». Autour d'elle se tenait le cercle des intimes d'autrefois, de ceux qui avaient assisté aux éclatants débuts du maître, à ses luttes, à ses succès. Avec eux, elle minaudait, faisait la petite fille. Il l'avait connue si jeune. Presque tous l'appelaient Anaïs, de son petit nom. C'était comme un cénacle dont le pauvre mari s'approchait respectueusement pour entendre parler de son prédécesseur. On se rappelait les premières glorieuses, ces soirs de bataille presque toutes gagnées, puis les manies du grand homme, ses façons de travailler, quand, pour amener l'inspiration, il voulait que sa femme fût à côté de lui, parée, décolletée. « Vous rappelez-vous, Anaïs ?» Et Anaïs soupirait, rougissait. De ce temps-là dataient ces belles pièces amoureuses, Savonarole surtout, la plus passionnée de toutes, avec son grand duo traversé de clair de lune, de parfums de rose et de tris de rossignol. Un enthousiaste le joua au piano au milieu de l'émotion recueillie. À la dernière note de cet admirable morceau, la dame fondit en larmes. C'est plus fort que moi, disait-elle, je n'ai jamais pu l'entendre sans pleurer. Les vieux amis du maître, entourant sa malheureuse veuve de leurs sympathiques condoléances, venaient à tour de rôle, comme aux cérémonies funèbres, lui donner une poignée de main vibrante. Allô, allô, Anaïs, du courage! Et le plus drôle, c'est que le second mari, debout à côté de sa femme, l'air ému, pénétré, distribuait des poignées de main lui aussi et prenait sa part des condoléances. Quel génie, oh quel génie, disait-il en s'épongeant les yeux. C'était à la fois comique et attendrissant.